VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. À Washington, la Chambre des représentants, chambre basse du Congrès, doit voter aujourd'hui sur un texte abrogeant et remplaçant Obamacare, la réforme du système de santé de l'ex-président Barack Obama. Le suspense reste entier concernant l'issue de ce vote. L'issue du vote sur ce premier programme législatif du président Donald Trump, Claire Morin-Gibourg.
C'est l'une des promesses de campagne de Donald Trump qui doit être sa première grande réforme. Cependant, le texte qui doit abroger et remplacer l'Obamacare fait face à une résistance. L'aile droite du Parti républicain estime que la proposition de loi va coûter trop cher à l'État fédéral. Les modérés s'inquiètent de la hausse prévue du coût de l'assurance maladie pour certaines populations et de la perte de couverture pour 14 millions d'Américains dès 2018. La minorité démocrate est totalement opposée, ce qui force les républicains à limiter les défections à une vingtaine au sein de leur propre camp. Les frondeurs qui font le plus de bruit, des ultra-conservateurs de l'ex-Tea Party, trouvaient le plan trop avantageux et ont obtenu une nouvelle clause. Les bénéficiaires du Medicaid, la couverture maladie des plus pauvres, sont désormais obligés de travailler. Le marchandage continue et le résultat final du scrutin se jouera à quelques voix près.
Crise migratoire, la Libye est devenue le point de passage obligé des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Le directeur général de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'américain William Lacy-Spring, est arrivé aujourd'hui à Tripoli pour consultation. Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants ?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, ce n'est pas une crise de chiffres encore une fois, on fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes, depuis le début de l'année, sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. Avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives, comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présentes là-bas, mais ne
serait
pas emprisonné.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève. En Égypte, 10 soldats égyptiens tués dans l'explosion de 2 bombes lors d'affrontements avec des djihadistes du groupe État islamique dans le nord de la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'annonce ce jeudi l'armée égyptienne. 15 djihadistes ont également péri dans les combats. Les 2 bombes qui ont explosé avaient été placées en bordure de route au sud de la ville d'Al-Arik. En Centrafrique, au moins 20 personnes, pour la plupart des civils, tuées et plusieurs blessés dans des heurts entre groupes armés dans la région de Bakouma, qui abrite un gisement d'uranium. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP une source militaire ce jeudi. Des heurts ont éclaté en début de semaine dans les villages situés aux abords de la ville de Bakouma, avant de gagner le centre même de la localité. Ces accrochages ont déjà fait au moins une vingtaine de morts pour la plupart des civils atteints notamment par des balles perdues, a précisé la source sous couvert d'anonymat, évoquant des combats entre ex-Seleka et ex-Anti-Balaka. C'est une situation très préoccupante car Bakouma est une zone très sensible, ajoute la même source. Bakouma abrite un gisement d'uranium dans une zone dépourvue de présence militaire centrafricaine ou de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place. En RDC, la désignation de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement d'opposition et candidat au poste de Premier ministre de la Transition a relancé le débat sur la gestion des partis et la succession politique dans le pays. Certains voient cette désignation en remplacement de son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février, comme une illustration de la succession en politique congolaise qui se fait de père en fils, en commençant par le président Joseph Kabila. Une approche dénoncée par le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalouira.
C'est une sorte de monarchisation de la vie politique au Congo, mais une monarchisation négative. Tout simplement parce que c'est vrai, ces gens-là n'ont que pour CV le nom de leur père, n'ont que pour identité le nom de leur père, mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun profil, ils n'ont aucune préparation pour gérer la République. Il n'est pas mauvais en soi qu'on soit fils de ou fille de et qu'on puisse aspirer à une fonction. C'est légitime, mais il faudra en avoir les compétences nécessaires.
Emery Damien Kalouira, président de la CCT, la Coalition des Congolais pour la Transition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Lundi, le pape François a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église catholique et ses membres durant le génocide de 1994 au Rwanda. Et ce, alors que le souverain pontife recevait en audience au Vatican le président rwandais Paul Kagame. Ceci a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et le Saint-Siège de la vie de beaucoup d'observateurs. Eric Manirakiza a recueilli les réactions de certains auditeurs de VOA Afrique.
Athanase Karayenga.
Écoutez, je crois que c'est un moment historique parce que les relations entre l'Église catholique, le Rwanda et surtout après le génocide ont été marquées par d'énormes confusions, d'énormes malentendus. C'est une histoire tragique, c'est une histoire longue, c'est une histoire de malheur horrible. Et je crois que le geste du pape contribuera à apaiser les esprits, à et surtout à apaiser les victimes du génocide.
Médard Nawetoussi.
Bien sûr, c'est bon de demander pardon. Ce qui m'avait un peu dérangé, je disais, est-ce qu'un péché commis par une autre personne peut, le pardon peut être exaucé aussi par une autre personne.
Diarra Kanyoumé.
Eric, à mon avis, je pense que la démarche du pape, vraiment, je suis très content pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il veut faire quelque chose à Dieu. Dieu est universel, donc il peut accepter tout. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on va faire les mauvaises choses aussi. Donc si tu as fait quelque chose à Dieu, si tu as demandé pardon, lui, il va accepter, mais il ne veut pas toujours continuer les mauvais chemins, sinon vraiment, Dieu, il va réactiver aussi. Donc ce que M. Papa est en train de faire, c'est une bonne initiative pour le peuple rwandais. Donc à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains doivent savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les temps des dictatures. Donc les génocides de 1994, on n'est pas dans les temps aujourd'hui. Donc il faut qu'il n'y ait pas très très attention pour diriger bien le pays. Sinon aujourd'hui, la population souffre aujourd'hui.
Aimé Kalombola.
Moi aussi, j'aimerais participer par rapport à ce que le pape avait dit, de demander pardon, parce que l'Église catholique a assisté à cette génocide rwandaise là-bas, parce que les prêtres aussi avaient tué ses fidèles. C'est pour cela que le pape a eu maintenant conscience de demander pardon. C'est ça, selon moi.
Et quelle est la leçon que vous tirez?
Dans la vie aussi, quand on fait une erreur, il faut se souvenir qu'il faut demander pardon. Donc la reconnaissance dedans, c'est ça la leçon que j'ai.
Athanase.
Le pardon que le pape demande aux victimes du génocide de Tutsi du Rwanda en 1994 est d'autant plus acceptable que la justice est passée avant.
Propos recueillis par Eric Manirakiza au cours du magazine Le Dialogue des Religions. Au Mali, des affrontements entre des chasseurs d'oiseaux et des pelons ont fait bilan provisoire, 29 morts et des dizaines de blessés. Ces accrochages ont eu lieu à Bali-Koro, dans le cercle de Niono, région de Ségou. Nous signale notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après le cercle de Massina, Niono vient de tomber dans les conflits intercommunautaires avec un affrontement sanglant entre les chasseurs appelés ici Dozo en Bamanan et les pelons djihadistes. À la veille des affrontements de ce mercredi 22 mars, trois personnes de la communauté Pil ont été tuées par des chasseurs. C'est pour répondre à cette représaille que les Pil ont planifié leur riposte. Et c'est dans le cercle de Niono, région de Ségou, plus précisément dans le secteur de Balikoro, ex-arrondissement de Sokolo, que les Dozo et les Pil se sont tués. Le bilan côté chasseur est de 9 morts, 13 blessés, alors que les Pil, vingtaine de morts avec 10 blessés. Certains blessés ont été évacués sur l'hôpital de Niono. Il a fallu encore l'intervention de l'armée malienne venue de Djabali pour stopper le carnage. Selon certains habitants de la zone, ce sont des terroristes qui agissent et font croire que ce sont des Pil, car les Pamanans et les Pil ont toujours cohabité dans la parfaite harmonie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer, Mauritanie, le projet de révision constitutionnelle approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat sera soumis à un référendum le plus rapidement possible, a affirmé le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.